RMC Intégral Sport.
Simon Dutin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes au bon endroit, RMC, le temple du sport à la radio. On est ensemble en direct jusqu'à 15h pour faire le tour d'une actualité aussi riche que variée. Au programme du rugby, à 5 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de rugby, Morgane Bourgeois sera notre invité dans un instant. On se projettera avec l'arrière du 15 de France sur les chances des Bleus pour cette édition en terre anglaise. Du basket également, au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Espagne, c'était la deuxième de la semaine. Freddy Fautou, le sélectionneur, a dévoilé ce matin la liste des 12 joueurs qui disputeront l'Euro à la fin du mois. Vous entendrez Boris Diaw, le manager général de l'équipe de France, qui était l'invité des grandes gueules du sport ce matin. Fred Weiss, notre consultant ancien international, nous aidera à décrypter cette liste. Tennis également avant 14h. Retour sur la semaine exceptionnelle de Terence Atman à Cincinnati. Le Français, éliminé hier en demi-finale, a regardé le numéro 1 mondial Yannick Sinner dans les yeux. Il a pris rendez-vous avec un public français qui attend désormais confirmation. Le live, le Grand Prix d'Autriche de moto GP, ce sera à suivre avec Eddy Artigo, évidemment, sur RMC. Et puis du foot dans la deuxième heure, suite et fin aujourd'hui de la première journée de Ligue 1. Coup de projecteur sur les rencontres du jour. On verra si nos commentateurs ont des motifs de nous exciter un petit peu avant les rencontres à suivre, notamment en multiplex. Brest-Lille à 15h, trois rencontres en multiplex. Et puis le PSG qui remet son titre en jeu en clôture de cette journée. FC Nantes-PSG, on sera avec Valentin Jamin en fin de tranche. Vous avez le programme, vous ne bougez pas, l'Intégral Sport démarre tout de suite sur RMC. J-5, je vous le disais, avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de rugby, et non Coupe du Monde de rugby féminin. Attention, il faut faire attention désormais. Elle se déroule cette année en Angleterre. Elle sera à suivre sur RMC du 22 août au 27 septembre prochain, avec les yeux et les oreilles, évidemment, tournés vers la performance de l'équipe de France. Les Bleus qui attaquent samedi prochain, 21h15, face à l'Italie. Objectif demi-finale minimum pour les 32 joueuses sélectionnées par Gaël Mignot et David Ortiz. On en parle dans l'Intégral Sport avec Pierre Thévenet, notre spécialiste rugby de la rédaction RMC Sport. Salut Pierre.
Salut Simon, bonjour à toutes et à tous.
Alors tu es en pleine lessive, hein, avant de partir en perfide Albion. Hein. Tu commenteras pour RMC les rencontres du 15 de France féminin. Comment tu les sens, nos Bleus, avant cette Coupe du Monde?
Mais ça va être très bien, cette Coupe du Monde. Elles ont fait des belles prestations sur le tournoi de destination. Elles ont inquiété les Anglaises sur la dernière journée, même si ça a été plus compliqué la semaine dernière. On va en reparler. En tout cas, on sera avec les Nike Corson samedi prochain à Sandy Park, etc. Et on va pousser fort derrière nos Bleus.
Évidemment. Et pour se projeter sur les chances de notre 15 de France féminin, on est ravis d'accueillir l'une de celles sur qui on compte, hein, pour aller loin dans le tournoi. Bonjour Morgane Bourgeois.
Bonjour à tous.
Bonjour Morgane.
Arrière du Stade Bordelais, toute récente championne de France pour la troisième saison d'affilée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que vous êtes arrivée hier du côté d'Exeter, dans le comté du Devon, avec vos partenaires. Je crois que vous avez eu droit à une belle cérémonie d'accueil.
Ouais, c'est ça. On est arrivé vendredi très exactement dans la soirée. Et hier, on a eu droit à une belle cérémonie dans la cathédrale d'Exeter. Donc ça a vraiment lancé pleinement le début de la compétition. Là, on est en plein dedans.
Racontez-nous un petit peu cette cérémonie. De quoi s'agissait-il?
Alors, c'est un peu particulier parce que toutes les équipes ne sont pas dans la même ville en fonction des premiers matchs que chacune joue. Donc nous, on avait une cérémonie spéciale avec l'Italie dans la cathédrale d'Exeter où on a été accueillis, très bien accueillis et acclamés par le public anglais. Et on a eu droit à une petite présentation avec des chants dans cette cathédrale. C'était très sympa.
Est-ce qu'on parle souvent de l'Angleterre comme le pays du rugby féminin, là où ce rugby féminin est le plus poussé en avant? Est-ce que vous sentez depuis votre arrivée un vrai engouement autour de cette compétition?
Ouais, complètement. Et je pense que cette cérémonie était un peu aussi le marqueur de ça. On est là que depuis 2 jours, mais franchement, on sent et on espère aussi que cette compétition, ce sera vraiment suivi de tous. Et je pense que le pays hôte va faire en sorte que ce soit vraiment un très grand événement.
Morgane Bourgeois, arrière du 15 de France féminin qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde 2025 en Angleterre, est l'invité de l'Intégral Sport. Morgane, cette préparation à la Coupe du Monde, elle a été longue, elle a débuté au mois de juillet, il y a eu un stage à Tignes notamment. Est-ce que cette montée en puissance vers le tournoi s'est déroulée comme prévu? Est-ce que vous vous sentez prête?
Oui, bien sûr. Comme vous dites, on a travaillé très très fort cet été avec avec plusieurs stages, notamment en altitude pardon à Tignes, qui était vraiment le pic au niveau de l'intensité de notre stage. Mais c'est aussi une compétition qu'on prépare depuis 3 ans de cela. Donc on se sent prête bien sûr, et on a surtout hâte de démarrer la semaine prochaine pour évacuer tout ce stress et se libérer sur le terrain.
Est-ce que Morgane, ce seul et unique match de préparation contre l'Angleterre perdu assez largement, est-ce que ça a mis un petit coup derrière la tête à vous les joueuses, ou est-ce que vous vous dites que c'est pas grave et que c'était mieux de perdre à ce moment-là que pendant la compétition?
Forcément, il vaut mieux le perdre maintenant que pendant la compétition, ce match-là. Donc il n'est pas grave au sens comptable, on va dire, mais forcément, il a mis un petit coup derrière la tête à tout le monde. On avait à cœur de valider vraiment notre prépa et de montrer que tout ce qu'on a pu mettre en place ces derniers mois allait payer. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que ça peut aussi nous pousser et nous permettre de pas nous reposer sur nos lauriers. Et avec une bonne claque comme ça, à 2 semaines du début de la compétition, on va être revanchard et on espère le montrer sur le premier match.
Un petit coup de fouet salvateur, une petite piqûre de rappel, on pourrait la qualifier comme ça, défaite 40-6 à Mont-de-Marsan le 9 août dernier.
Oui, c'est ça, c'est une petite claque qui va nous remettre dans le droit chemin et nous rappeler que c'est jamais facile et qu'il va falloir qu'on donne tout à chaque match à 200%.
On le sait, dans le plateau mondial du rugby féminin, l'Angleterre est vraiment semble intouchable. On rappelle, elles ont perdu un seul match depuis 2018. C'était la finale de la dernière Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande en 2022. Ensuite, il y a la Nouvelle-Zélande, le Canada et vous. Ça semble être un plateau rêvé pour des demi-finales. C'est ça l'objectif que vous dites, c'est d'arriver à ce stade de la compétition?
Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'objectif pour nous, ça va être d'aller en demi-finale minimum. Et puis plus loin, on l'espère. On participe pas à cette compétition pour terminer à la 3e ou à la 4e place. Une Coupe du Monde, c'est trop rare pour passer à côté. Donc nous, ce qu'on va viser, c'est d'aller le plus loin possible, même si on sait qu'on n'est pas favorite. On est 4e actuellement au classement mondial et on a devant nous les équipes que vous venez de citer. Mais sur une compétition, tout peut se passer. Regardez, les Bleus à 7 l'année dernière étaient favorites, elles sont éliminées en quart. Au contraire, les garçons n'étaient pas forcément favoris, ils ont gagné. Donc heureusement, le sport est fait d'exploits et on est là pour créer cet exploit-là.
Morgane, les demi-finales, c'est un peu le plafond de verre de cette équipe de France. On se souvient de cette défaite cruelle d'un point des Bleus face à la Nouvelle-Zélande lors de l'édition précédente qui s'était tenue en 2022. Envisageable d'atteindre la finale, d'être championne du monde, ou il est encore un petit peu tôt selon vous?
Bien sûr, c'est envisageable, sinon ça servirait à rien de participer. Nous, ce qu'on veut, on est des compétitrices, donc on vise toutes cette finale et le titre au bout. Après, ça sera pas une chose facile. Il y aura 4 matchs avant, tous très différents mais très importants, et qu'on devra prendre au sérieux, chacun les uns après les autres. Donc on va d'abord se concentrer sur le premier match et prendre ces rencontres match après match. Mais bien sûr qu'on vise d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Ouais.
L'ambition de Morgane Bourgeois, l'arrière du 15 de France féminin, qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde 2025 en Angleterre, invité de l'Intégral Sport sur RMC. On a encore plein de questions à vous poser, Pierre.
Ouais, à titre personnel, Morgane, tu sors d'une très belle saison. Simon le disait, 3e titre consécutif avec le Stade Bordeaux. Et puis, tu t'es imposé en équipe de France. Tu as fini dans l'équipe du tournoi, titulaire sur toutes les rencontres du Six Nations. Tu l'as vécu comme une saison de confirmation un peu pour toi, avec notamment ce rôle de buteuse, 73 points pendant le tournoi de Six Nations. C'est ça aussi qui t'a aidé à t'imposer dans cette équipe?
Oui, bien sûr. C'est pas une saison de confirmation, une saison qui m'a mis en confiance surtout sur le plan personnel, où je sortais d'une saison précédente 2023-2024 un peu moins réussie sur le plan perso. Donc un an de la Coupe du Monde, j'avais vraiment à cœur de déjà reprendre énormément de plaisir sur le terrain et de montrer de quoi j'étais capable, et ça m'a plutôt réussi en club d'abord, et ça m'a permis ensuite de jouer le tournoi destination. Donc ça m'a permis d'engranger surtout beaucoup de confiance avant cette compétition-là, où je sais que le rôle du buteur est assez important aussi, et que je devrais être prête.
Morgane, justement, vous êtes accompagné, je crois, par 10 de vos partenaires du Stade Bordelais. Est-ce que, alors c'est une question rhétorique, c'est important d'avoir une ossature comme ça d'un club dominant en équipe de France? On le relève souvent chez les homologues masculins du 15 de France avec le Stade Toulousain.
Ouais, ben je pense que tout le travail qu'on a amorcé en club depuis 3-4 ans paye aujourd'hui. Quand on voit le nombre de filles qui figurent dans la liste, ça part de tout le travail mis en place par le club, les moyens qui ont été mis en place pour nous mettre dans les meilleures conditions pour progresser. Et donc ensuite, nos performances ont fait qu'aujourd'hui, 11 d'entre nous ont pu performer avec le club et être récompensés aujourd'hui. Et après, c'est vrai que quand on est ici, on a forcément un petit peu plus de repères, un peu plus de l'habitude de jouer avec certaines partenaires. Donc c'est un peu plus facile de se trouver sur le terrain, on va dire, parce qu'on se connaît par cœur.
Samedi prochain, Morgane, il y a ce premier match face à l'Italie. On le rappelle, Italie, Brésil, Afrique du Sud, c'est les trois adversaires de cette phase de groupe. L'Italie paraît un des adversaires les plus costauds de cette poule. Vous restez sur 4 victoires contre les Italiennes. C'est une équipe que vous rencontrez très souvent, on le rappelle, pendant le tournoi destination. Qu'est-ce qu'il va falloir faire sur ce premier match? C'est d'évacuer la pression tout de suite et lancer la compétition d'une bonne manière?
Ouais, c'est ça. Notre objectif, c'est de rentrer très fort dans cette compétition. Et l'Italie sera sûrement comme vous l'avez dit, le match le plus compliqué de notre phase de poule. C'est une équipe dont on se méfie beaucoup parce que malgré le fait qu'on les a battus dernièrement, on a quand même, elles nous ont mis en difficulté sur le tournoi des destinations. Donc il va falloir être très sérieux dans la préparation pour vraiment essayer de pas se faire peur dès le début entre guillemets et de commencer. Très fort pour se rassurer et se lancer pleinement.
Justement, la préparation, elle va se poursuivre durant quelques jours avant cette entrée en lice face à l'Italie. Parlez-nous un petit peu de vos conditions du côté d'Exeter. Vous êtes satisfait du centre d'entraînement sur lequel vous, justement, vous peaufinez les réglages, les installations sont à votre goût?
Oui, complètement. Franchement, on a été super bien accueillis dans un très bel... très beau centre d'entraînement, très bel hôtel, on a tout à dispo, tout à 20 mètres de marche, donc franchement on est vraiment dans des très bonnes conditions, on ne peut pas se plaindre et on a plutôt intérêt à bien travailler parce que franchement je pense que beaucoup pourraient nous envier des conditions dans lesquelles on est actuellement. Ouais.
Et c'est pas trop long d'être avec les mêmes filles pendant 3 mois comme ça, on le rappelle, ça a commencé 1er juillet, ça va courir jusqu'à la fin du mois de septembre. Je plaisantais en disant ça, mais comment on fait pour garder une énergie positive dans le groupe? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pendant la prépa, des moments hors du sport aussi un peu pour continuer à bien renforcer la cohésion de ce groupe?
Ouais, complètement. Sur la préparation, on avait aussi un fil rouge qui était de renforcer notre cohésion, de transformer vraiment ce groupe en une vraie équipe solidaire. Alors on avait déjà un très très bon groupe et très soudé, mais l'objectif de la prépa c'était aussi de s'habituer à vivre ensemble. Donc on a eu quelques activités de cohésion. On a été monter la Tour Eiffel tout ensemble un matin, qui était quand même une activité assez folle.
En ascenseur, on a été, ou par les escaliers,
avec les pompiers de Paris aussi. Non, par les escaliers.
Quand même.
On a mêlé préparation physique et cohésion, dépassement de soi, et puis à la fois cadre idyllique. Donc le staff a organisé pas mal d'événements comme ça où le groupe a pu se resserrer dans l'effort et puis dans la communication, tout ça. Et voilà, et ensuite... On est plutôt habitué à vivre ensemble sur le tournoi destination pendant presque un mois et demi. Ça s'est toujours plutôt bien passé, donc il n'y a pas de raison. Le groupe vit bien et puis tout le monde gère un petit peu comme il peut.
Le groupe vit bien, justement. Bah, oui, évidemment, et c'est l'essentiel. Morgane, est-ce que vous auriez des petites anecdotes à nous partager sur la préparation? Qui sont les ambianceuses de votre groupe? Est-ce qu'il y a une chanson déjà fétiche qui vous rassemble? Partagez-nous un petit peu les coulisses des derniers jours de préparation.
Alors, on en a beaucoup des ambianceuses, des filles qui apportent beaucoup de bonne humeur. On a Gabi Vernier qui est quand même au cœur des bêtises souvent. Tani Féléo aussi Tani Féléo aussi qui apporte beaucoup de fraîcheur et de sourire. On avait Ambre Mayembe aussi qui était un peu notre petit soleil qui était assez jeune, insouciante et qui nous a fait beaucoup rire, qui malheureusement s'est blessée il y a 2 semaines de ça et qui ne pourra pas participer avec nous à cette compétition. Donc on va essayer aussi de penser encore à elle parce qu'elle a apporté vraiment ce grain de folie à notre groupe et mettait énormément de bonne humeur. Donc c'est aussi pour elle qu'on va essayer de se battre et d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais franchement, on en a beaucoup des spécimens et voilà, on fait beaucoup de jeux de société. On s'amuse bien, on s'ennuie pas.
On imagine. Avant de vous libérer, est-ce que vous avez reçu des encouragements de vos copains du 15 de France masculin ?
Pas vraiment. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de les croiser. On est peu en contact avec eux, si ce n'est pas du tout. Donc, pour l'instant, pas encore, mais j'espère que ça va arriver dans la semaine.
Ça fait aucun doute, même évidemment. Vous allez recevoir. Les derniers jours, là, on a allégé la préparation. On imagine qu'on va essayer d'éviter les risques de blessures à l'entraînement avant d'entrer en lice face à l'Italie.
Ouais, on va rentrer dans un format un peu plus classique de compétition, comme on a l'habitude de vivre pendant le tournoi de destination, avec une charge un petit peu moins élevée que ce qu'on a pu connaître cet été, un jour off en milieu de semaine, avant de repartir sur la fin de semaine sur plutôt des entraînements court mais intense avec pas mal de vitesse et le captain run. Donc là, on va rentrer un petit peu notre routine entre guillemets qu'on connaît bien et pour prendre nos repères vraiment pleinement.
Et ce premier rendez-vous, c'est samedi prochain à 21h15 face à l'Italie. On suivra évidemment votre entrée en lice. Merci beaucoup Morgane Bourgeois d'être passé par l'Intégral Sport. Et on va
Merci
vous suivre
vous.
Évidemment sur RMC. Pierre, tu seras là-bas évidemment. Tu
Bien pars sûr. Quand On part vendredi avec les Nike Corson. Et donc on sera là au Captain Run puis au match. Et on sera là bien sûr à tous les matchs de l'équipe de France de cette compétition.
Et on suivra évidemment la performance de ces Bleus. On vous souhaite toute la réussite possible, Morgane Bourgeois. Et on compte sur Pierre pour nous faire vivre vos exploits à venir sur RMC. À bientôt. Vous ne bougez pas. L'Intégral Sport revient dans un instant. On va passer du rugby au basket. C'est l'autre événement sport de cette fin de mois d'août. L'Euro 2025 de basket masculin cette fois. La liste des 12 joueurs appelés à briller dans les 4 pays qui accueillent la compétition est tombée ce matin. On en parle dans un instant avec Fred Weiss, notre consultant de la Dream Team qui s'installe en studio. Vous ne bougez pas, on est de retour dans quelques secondes à peine.
RMC Intégral Sport,
Simon Dutin.
À 13h21, le retour de l'Intégral Sport. On est ensemble en direct jusqu'à 15h avant de faire la face à Flora Moussi autour de la rencontre entre le Stade Brestois et Lille, la suite de la première journée 2025-2026. En Ligue 1, première journée de la saison, c'est mieux avec tous les mots dans l'ordre. D'ici là, on poursuit notre programme Omni. Fred Weiss nous a rejoint, notre consultant de la Dream Team. Salut Fred.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
On va parler avec toi de ce qui sera l'autre événement sport de la fin de ce mois d'août.
Le vrai événement.
Voilà, je t'attendais évidemment au coin du bois. Cet Euro de basket masculin qui se déroule du 27 août au 14 septembre prochain. Alors on va jouer en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne.
Oui. Voilà. Compliqué, mais c'est plus facile en fait à mettre en place réellement.
Voilà. Et ça fera que des belles salles pour accueillir les rencontres de ce bel événement. L'équipe de France qui débutera le jeudi 28 face à la Belgique. On connaît, Fred, depuis ce matin, la liste des 12 joueurs retenus par le sélectionneur Freddy Fautou au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Espagne à Bercy. Ça fait 2 fois dans la semaine, hein, face aux Espagnols.
Oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, surtout.
11 ans, je crois, hein, avant la première
de la semaine.
Donc
on est plutôt content.
On prend. Si cette sélection espagnole n'est plus aussi redoutable, peut-être que oui,
c'est
d'avant.
Mais ça, on n'a pas besoin de le préciser. Exactement. C'est la réalité, exactement. Mais on n'a pas besoin de le dire.
Alors, je le disais, Freddy Fautou était très attendu ce matin parce qu'on attendait la liste définitive des 12 joueurs qui vont disputer cet Euro. C'est Nadir Hifi, l'arrière du Paris Basket, qui fait les frais de l'impitoyable processus de sélection. Alors, on rappelle qu'il n'y avait plus qu'un joueur à écarter, entre guillemets, depuis qu'on avait appris le forfait sur blessure de Vincent Poirier. Hifi qui fait les frais des excellentes prestations de Sylvain Francisco, le joueur de Kaunas. Il a brillé notamment lors des 2 rencontres face à l'Espagne. On va y revenir avec toi, mais pour se projeter sur cet Euro et les chances de cette équipe de France en pleine reconstruction, Boris Diaw, le manager général, était l'invité des Grandes Gueules du Sport auxquelles tu participais, exactement, évidemment, ce matin. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui n'étaient pas au rendez-vous autour de François Pinet, Boris Diaw a été interrogé sur les objectifs qu'il fixe à ces Bleus en pleine reconstruction.
Oui, on a des signaux hyper positifs. Ce serait bien sûr très bien d'aller dans le dernier carré. Mm-hmm. Moi, j'ai vraiment tendance à dire qu'on essaie aussi d'inculquer cette culture de la gagne aux jeunes qui arrivent aussi. Mm-hmm. On a réussi à hisser l'équipe de France au plus haut niveau international et le but est d'y rester, quelle que soit l'équipe, quels que soient les joueurs qui soient là. On a aussi cette responsabilité de continuer à avoir l'équipe le plus haut possible. Et donc, essayer d'arriver dans le dernier carré serait déjà... très bien, compte tenu de la difficulté de ce championnat et des équipes qu'on va avoir à affronter. Oui.
Alors, interview à retrouver en intégralité en podcast sur l'application RMC, RMC Sport, le site RMC Sport. Fred, tu souscris, objectif dernier carré, c'est le même raisonnement qu'avec l'Espagne qui n'est plus aussi redoutable. Cette équipe de France, elle est en reconstruction, je me répète, mais demi-finale quand même pour l'Euro.
Je sais pas, je trouve que c'est un petit peu ambitieux. Un petit peu dur de donner une ambition à cette équipe. C'est une équipe qui est jeune, qui a des joueurs jeunes, qui est jeune aussi parce qu'il y a un nouveau coach. Donc il y a plein de choses qui ont changé. C'est vraiment difficile d'évaluer exactement le niveau de cette équipe. On sait qu'il y a de l'envie, on sait qu'il y a de la motivation, on sait qu'il y a des qualités physiques et basket. Mais difficile de vraiment juger par rapport à une équipe, par exemple, comme la Serbie, qui est une équipe qui est plus mature, qui a des joueurs plus stars. C'est vraiment difficile de les évaluer. Je pense qu'il faut déjà bien jouer ensemble, comme on a pu le faire sur la deuxième mi-temps contre l'Espagne, où on a vu de très belles choses. Franchement, faire un pronostic, c'est très compliqué. Je peux te dire tout de suite qu'on ne sera pas champion d'Europe, mais dernier carré, ça serait déjà une belle perf.
Dernier carré, en effet, demi-finaliste. Je vous rappelle la liste. Les arrières, Mathieu Strazel, Théo Malédon, Sylvain Francisco, Elio Kobo, ailier, Isaiah Cordigny, Bilal Koulibaly, Zachary Rizaché, Timothée Louaou Carbaro. Et à l'intérieur, Gershon Yabouzélé, Jalen Horde, Alexandre Sarr et même Jaïté. On va revenir avec toi sur la composition de ce groupe. Avant ça, petit mot sur celui qui n'y figure pas, Nadir Hifi, dernier joueur coupé, comme on dit. On sait, les places sont chères. Est-ce que tu trouves cette décision logique? Est-ce que tu la comprends?
Alors, je la comprends. Je suis très triste pour Nadir Hifi qui vient en plus sortir d'une saison exceptionnelle avec le Paris Basketball. Ouais. Et c'est ce genre d'électron libre que tu peux utiliser parfois en sortie de banque, qui peut mettre des paniers très compliqués, qui peut débloquer des situations. Sauf que Sylvain Francisco a franchi un vrai cap depuis qu'il est à Kaunas. Il joue en Euroleague. Il a progressé dans la gestion du jeu. Mmh. Il a progressé dans le sens où il est moins tout fou. Il est capable de gérer le moment des possessions. Et c'est important dans un championnat d'Europe où c'est tellement dense, où c'est tellement physique. C'est hyper important d'avoir ça en stock.
Qui peut prendre le rôle, justement, qu'un Hifi pouvait tenir? Alors c'est vrai que ça va avec une certaine inconstance, une certaine irrégularité, mais c'est, tu le disais, un joueur qui peut électriser un match, qui peut par
des actions d'éclat, des shoots extrêmement difficiles, ça peut te remotiver un petit peu.
Est-ce qu'on
Sylvain Francisco avait ça avant, parce que c'est vrai qu'il était capable de faire plein de choses, mais il était un peu inconstant. Il a gagné en constance, donc je pense que Freddy Fautou peut aussi l'utiliser comme ça. J'ai besoin de dynamite sur le terrain, je te mets sur le terrain, tu nous fais un petit peu du Sylvain Francisco à l'ancienne, old school, et ça peut aider. Je pense que c'est celui qui peut le faire le plus, en tous les cas, parce qu'il a cette énergie, cette vitesse et cette capacité à être tout fou aussi quand même.
Et on l'a vu avec une énergie incroyable, hein, notamment lors des deux rencontres et des deux victoires face à l'Espagne cette semaine. On disait équipe jeune, jeune sélectionneur, en préparation ça fait 4 victoires en 4 matchs. Pour Freddy Fautou, ça fait 6 victoires en 6 rencontres. Pour les plus jeunes de nos auditrices et nos auditeurs, parle-nous un petit peu de Freddy Fautou, ancienne gloire du basket français.
Alors je connais très bien Freddy Fautou parce que c'était un joueur de Pau à l'époque. Et donc oui, forcément, ayant joué à Limoges, je le détestais.
Le grand rival.
Mais vraiment, vraiment, foncièrement, je le détestais, alors que c'est un garçon qui est intelligent, gentil, sympathique.
Mais sur le terrain, c'était une teigne.
Et je pense qu'il a gardé le bon côté de ça. C'est-à-dire qu'il est toujours meneur d'hommes, il est toujours capable de rassembler autour de lui. Mais il est beaucoup moins agressif, il comprend mieux les choses et il a moins tendance à s'énerver comme il le faisait avant, même si ça lui arrive encore un peu. Donc voilà, c'est plus un meneur d'homme. Quand on compare à Vincent Collet, c'est quelqu'un, un technicien presque froid, une larme froide, alors que du côté de Freddy Fautou, c'est plus dans l'exubérance, dans l'énergie, dans le fait d'être un meneur d'homme.
Qu'est-ce qu'il a apporté justement à cette équipe de France, toi qui es un observateur avisé du jeu des Bleus?
Déjà, il a mis en concurrence tout le monde. Après, il a eu de la chance parce qu'il y a eu pas mal de blessés, donc il a eu un groupe beaucoup plus homogène, donc ça lui a permis de mettre tout le monde en concurrence. Tout le monde joue peu en préparation. On joue une vingtaine de minutes au maximum, ce qui est peu en soi. Donc ça veut dire qu'il a réussi à mettre tout le monde dans le bain, à être celui qui gérait tout le monde dans le sens où tout le monde est chaud, tout le monde a envie de jouer, tout le monde est prêt à jouer, tout le monde sait qu'il va avoir des minutes, et donc quand ils rentrent, ils sont efficaces tout de suite. Et ça, c'est hyper important, et c'est jamais facile à faire.
Alors, on pouvait envisager ce matin que deux joueurs soient écartés pour qu'un intérieur supplémentaire soit appelé. C'était une hypothèse afin de pallier le forfait de Vincent Poirier, blessé au genou. Moussa Diabaté, l'intérieur des Hornets de Charlotte, a été rappelé. Il avait été renvoyé très tôt dans la préparation de l'équipe de France. Peut-être un petit peu vexé, un petit peu déçu, on ne peut pas le savoir. Mais il a en tout cas refusé de revenir. Il a préféré, dit-il, se consacrer à sa saison NBA en précisant qu'il avait consulté son entourage. Comment t'as accueilli, toi, la décision du jeune intérieur français ?
Bah, évidemment, déception, parce qu'on aurait voulu le voir, parce que c'est vraiment un très bon joueur, surtout très bon rebondeur, qui a beaucoup d'énergie, qui aurait pu nous aider. Mais en même temps, quand tu te mets à sa place, tu te dis, il a dû prévoir son programme d'entraînement. Il est peut-être au moment où il tape dans le dur à l'entraînement. Et s'il enchaîne directement sur une compétition, ça va être compliqué pour lui. Il va se perturber par rapport à sa préparation. Faut savoir que les camps d'entraînement aux États-Unis commencent aux alentours du 14-15. Donc s'il arrive pas très en forme parce qu'il joue peu avec l'équipe de France, ouais, bah, ça peut être compliqué pour lui. Alors, à sa place, j'aurais pas fait ça. Mais je comprends son choix.
Il y a déjà, des précédents. C'est vrai qu'on sait que c'est déjà suffisamment compliqué de se libérer, d'obtenir l'autorisation de sa franchise pour traverser.
Sauf quand on est une superstar, et ce n'est pas son cas.
Voilà, tu devances la fin de ma question. Lui n'est pas encore un joueur confirmé en NBA, donc.
Il n'a pas le poids pour imposer ça à sa franchise, et on comprend encore une fois, il est en train de faire sa place. C'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui a fait beaucoup de bien quand il rentrait à Charlotte, et c'était vraiment intéressant ce qu'il proposait. Maintenant, il doit faire sa carrière. On n'a pas à avoir de rancœur par rapport à ça. On n'a pas à dire qu'il se trompe. Il a pris son choix. On est déçu, évidemment, mais c'est peut-être mieux pour lui.
Mais c'est important de rappeler le fonctionnement un petit peu particulier du basket aux États-Unis, oui, avec toutes les questions d'assurance et puis, en effet, très difficile d'obtenir la confiance du staff dans ces franchises. Freddy Fautou, le sélectionneur de l'équipe de France, évidemment interrogé sur ce refus ce matin en conférence de presse après avoir dévoilé la liste.
Sur le poste d'intérieur, on avait la blessure de Vincent qui a un coup dur et qui nous posait problème. On a sollicité au moins un joueur qui avait fait la préparation avec nous, Moussa Diabaté, qui a refusé de revenir pour des choix personnels de carrière. J'aurais pas fait ce choix, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est le sien, il faut le respecter. Donc on a préféré privilégier les solutions en interne.
Voilà, Freddy Fautou qui réagissait au refus de Moussa Diabaté, l'intérieur des Hornets de Charlotte, de revenir en équipe de France pour disputer l'Euro suite au forfait de Vincent Poirier. Fred, il y a quand même, on le disait, dans cette équipe qui doit se renouveler, qui change progressivement de génération, nos nouvelles pépites du basket français qui commencent à se montrer en NBA, on pense à Zachary Risacher, dont tu as bien connu le papa, toi, en équipe de France.
Exactement.
Qui a fait une belle saison du côté des Hawks d'Atlanta.
Oui, il a été une deuxième au rookie de l'année, donc le meilleur nouveau. Il a été deuxième, donc c'est plutôt pas mal.
Et Alexandre Starr à l'intérieur, qui lui aussi a fait une bonne saison du côté de Washington. Bon,
lui, c'est pas de sa faute, en fait. C'est Washington qui est tellement mauvais qu'on l'a pas tellement vu, mais lui statistiquement et dans l'impact, il a fait une bonne saison. Ouais.
Avec Bilal Koulibaly, qui lui s'installe progressivement dans cette équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces joueurs qui découvrent aussi un petit peu les compétitions FIBA au plus haut niveau avec l'équipe de France? Est-ce qu'ils doivent, selon toi, d'ores et déjà être les leaders des Bleus?
Oui, ils doivent commencer un petit peu. Après, il y a des joueurs qui sont installés. On parle de Gershon Yabusele, par exemple, qui avait été excellent aux Jeux Olympiques et qui est excellent depuis qu'il est en équipe de France. Clairement, on a vu Mathieu Strazel, qui est aussi un excellent joueur. Mais c'est vrai que c'est les nouveaux. C'est ceux qui doivent apporter. C'est ceux qui doivent montrer des choses. Faut se rappeler qu'ils ont été numéro 1 et numéro 2 la draft 2024. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est des potentiels énormes sur lesquels on doit s'appuyer. Mais il faut pas non plus leur brûler les ailes. Donc il faut trouver le bon ajustement. Et je pense que Freddy Fautou est parfait pour ça. Il va être capable de les lancer dans le bain sans leur mettre trop de pression parce qu'ils restent jeunes.
Parle-nous un petit peu du profil d'un Zachary Risacher, justement, qui est un petit peu un joueur à tout faire sur le terrain.
Oui, c'est un joueur à tout faire, mais en NBA, on l'utilise plus comme un 3 and D. C'est-à-dire qu'il est capable de défendre, Et à 3, ça veut dire qu'il est capable de shooter à 3 points, notamment dans les, à 0 degré. Donc c'est plutôt ce type de joueur capable de shooter à 3 points, de bien défendre sur l'homme. Mais effectivement, c'est vrai qu'Rizaché a bien plus de choses à faire sur le terrain. Il est capable de pénétrer, il est capable de faire des passes, il est capable de créer pour les autres. Et je le répète, son point fort énorme pour moi, c'est sa défense. Capable de défendre sur plein de postes, parce que grand, parce que athlétique, parce que de longs bras. Et donc forcément, quand tu peux apporter en défense et qu'en plus tu peux marquer quelques points, t'es sur le terrain en général.
Bon, Evan Fournier n'est pas là, t'as connu la grande époque, toi, des Rigaudot, Rizaché, on en parlait, Foirest, des gros scoreurs. On a l'impression que c'est peut-être ce qui manque un petit peu, un leader d'attaque capable de nous mettre 20 points à chaque match. Qui, selon toi, chez nos Bleus, là, peut endosser ce costume lors de cet Euro?
Alors, c'est le problème et la qualité de cette équipe. C'est-à-dire que c'est le problème, parce qu'effectivement, moi, j'aime bien quand il y a toujours une tête qui dépasse un petit peu. Et en fait, on a de la chance d'avoir un groupe très homogène. C'est-à-dire que tout le monde est un vrai danger. Ça peut se poser de vrais problèmes dans des matchs compliqués, parce que tu sais pas vraiment qui donner le ballon, le go-to guy, comme on appelle aux États-Unis, le joueur référence qui va scorer les points quand il le faut. Mais moi, par exemple, quand je vois un Gershon Yabusele, j'imagine qu'il est capable de le faire sans aucun problème. On a vu Mathieu Strazel, sur le troisième carton contre l'Espagne, prendre les choses en main et marquer des points aussi. Il y a des qualités offensives. Mais moi, je compte sur les deux joueurs que tu as cités tout à l'heure, hein. Alexa, Rizaché, je pense qu'ils sont capables de le faire aussi. Donc voilà, on a plein de talents, mais on n'a pas un talent générationnel comme pourrait être Wemby s'il était là.
Justement, on a quand même tendance à l'oublier. Il y a des joueurs qui sont revenus en Europe après avoir fait leurs armes quand même en NBA. Théo Malédon, Elie Okobo, Luau Cabarro.
Mais Gershon qui a fait l'aller-retour.
Il avait commencé à Boston, il est reparti en Europe, il est revenu
il s'est relancé
à Philadelphie et il a signé un beau contrat avec les Knicks, oui, où il évoluera la saison prochaine. Malgré ce qui reste, bon, on l'imagine, des déceptions pour les trois premiers que j'ai cités. C'est l'expérience qui sert ces joueurs-là lorsqu'ils reviennent en Europe et
oui, ça, en équipe de France. Ça te sert et puis ça te rend un petit peu utile pour les équipes majeures de Euroleague. C'est-à-dire que quand on voit un Théo Malédon qui s'est relancé après la NBA, il est passé par l'ASVEL où il a été excellent, vraiment excellent l'année dernière dans la deuxième meilleure compétition du monde quand même, qui est l'Euroleague. Là, il a signé au Real Madrid. Donc, à un moment, il faut quand même se rendre compte des qualités de ces joueurs. C'est pas parce qu'ils jouent pas en NBA qui ne sont pas bons, et ça fait plaisir au contraire de les voir évoluer à ce niveau-là. On parle de lui, mais on parle d'un Elie Okobo qui à Monaco bien est sûr juste extrêmement performant, TLC qui à l'étranger aussi a performé.
TLC. Voilà.
Ouais, TLC, Timothée Luau Cabarro.
On va les suivre évidemment. Parle-nous un petit peu des adversaires qui attendent la France, on l'a dit. Jeudi 28, entrée en lice face à la Belgique. C'est belge.
Jamais simple à Belgique parce qu'on est français, parce que c'est les voisins, parce qu'ils vont bastonner un petit peu. Donc jamais simple, faut jamais sous-estimer les Belges. Ça joue pas si mal que ça au basket, loin de là même. Donc attention à pas prendre les matchs trop à la légère. Belgique, attention.
Slovénie ensuite.
Lucas Doncic, déjà on sait pas trop son état de forme parce qu'il a pris un impact sur le genou, donc je sais pas, mais en gros la Slovénie, sans être méchant,
il a séché pendant l'été, ça a été souligné aux États-Unis. Il a perdu 14 ou 15 kilos,
ouais, incroyable. Donc il devrait être très en forme, lui, en tous les cas s'il se remet de la blessure qu'il a subie lors du dernier match. Mais pour résumer, la Slovénie, c'est Lucas Doncic.
Oui.
Je suis un peu dur avec les autres joueurs parce qu'il y a quand même des joueurs de talent, mais réellement, si t'arrives à arrêter Lucas Doncic, t'es quand même pas trop mal.
Bon, Doncic au basket, Pogacar en cyclisme.
C'est ça.
Israël, Pologne, il y a un adversaire à craindre.
Alors à craindre non, mais à respecter. Ne pas sous-estimer évidemment les adversaires, mais non, à craindre normalement non. On n'est pas trop mal quand même.
Bon, écoute.
C'est après que ça va devenir plus compliqué quand tu vas affronter l'Allemagne, la Serbie. Ça, par contre, ça fait beaucoup.
Tu devances ma dernière question. Tu disais, on sera pas champion d'Europe. Attention aux Serbes, qui sont Allez, les trois favoris pour toi de cet Euro 2025.
Ah, j'ai tendance à dire deux, parce qu'après, je trouve qu'il y a vraiment un sac où les Français sont. C'est-à-dire que ça dépendra vraiment de nos croisements, etc. Mais les deux, c'est la Serbie numéro un largement, parce que quand t'as un joueur comme Nikola Jokic, quand t'as un collectif comme peuvent avoir les Serbes, franchement, ça va être difficile d'aller les prendre. Et ensuite, les Allemands, qui font très bonne impression, qui ont un groupe qui est peu changé, qui travaille très très bien, et qui est conservé, eux, par rapport aux Jeux Olympiques, même si eux, on les a battus.
Et oui.
Eux ont réussi à conserver un plus grand nombre de joueurs. Donc, voir eux me font plus peur. Après, franchement, je pense qu'on peut être dans les 3-4 équipes qui embêtent les autres après.
Objectif demi-finale, comme l'a dit Boris Diaw, manager général de l'équipe de France. qui était l'invité des Grandes Gueules du Sport. Je vous invite à retrouver, écouter en intégralité son passage sur RMC en allant podcaster cet extrait sur le site rmcsport.fr ou sur l'application RMC. Merci beaucoup.
Merci Fred, beaucoup
de nous avoir consacré un petit peu de temps.
Merci. Et je ne vous vois plus avant, je sais pas combien de temps. Ça a été un plaisir.
Non, c'est un plaisir partagé lorsque tu me dis ça.
Allez, au revoir.
On sera ravis de te retrouver à la rentrée. Bon repos, bien mérité pour toi. Et à très vite, Fred. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport se poursuit dans un instant. Après le rugby féminin et l'Euro de basket, on va s'intéresser à la nouvelle sensation du tennis français. Terence Atman, qui a regardé Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, dans les yeux hier, malgré la défaite en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati. On en parle avec Eric Salio, notre spécialiste tennis. Ne bougez pas, on est de retour dans quelques secondes.
RMC, Intégral Sport,
Simon Dutin.
Vous ne manquez rien, comme ça, week-end sur RMC, Intégral Sport, en direct jusqu'à 15h, avant de suivre autour de Flora Moussi la suite de la première journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1, la rencontre entre le Stade Brestois et Lille. On se projettera sur cette rencontre avec Xavier Grimaud à partir de 14h. Xavier qui sera au commentaire de cette rencontre. Je vous invite à aller d'ores et déjà podcaster les premières minutes de cet Intégral Sport. Morgane Bourgeois, l'arrière du 15 de France féminin qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde en Angleterre, était notre invité avec Pierre Thévenet, notre spécialiste rugby, à 13h. Excellente interview, passionnante interview avec la buteuse désormais d'un 15 de France ambitieux à l'approche d'une compétition dont vous ne manquerez rien sur RMC. Fred Veil, c'était à l'instant avec nous, notre consultant. On est revenu avec lui sur la liste dévoilée par Freddy Fautou. Les 12 joueurs, on les connaît désormais, qui vont disputer l'Euro avec les Bleus du côté de la Pologne, de Chypre, de la Lettonie, de la Finlande. Ce sera également à suivre sur RMC. Objectif, à demi-finale, a déclaré sur notre antenne Boris Diaw, le manager général de l'équipe de France. Il était l'invité des Grandes Gueules du Sport ce matin autour de François Pinet. Vous pouvez là aussi aller podcaster l'entretien qu'il a accordé à RMC. Avant de parler foot, à partir de 14h, on va parler un petit peu tennis parce qu'il est la nouvelle sensation d'un tennis français en manque de tête d'affiche, à la recherche d'une nouvelle star. Terence Atman a fait une entrée météorique dans le cœur des amateurs de la balle jaune en atteignant cette semaine la demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati. C'était la première fois pour le joueur de 23 ans qu'il se retrouvait à cette altitude. Et puis hier, il a regardé le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, dans les yeux, seulement battu 7-6, 6-2. On rappelle qu'il était sorti des qualifications. Il s'est offert deux top 10 sur la route de cette demi-finale, Taylor Fritz et Holger Rune. Il va passer 69e mondial lorsque le classement ATP sera mis à jour demain et tentera de sortir des qualifs pour, pourquoi pas, créer une nouvelle surprise du côté de Flushing Meadows où se déroule l'US Open. Alors, il y en a un qui n'est toujours pas remis de ses émotions, c'est notre spécialiste tennis de la rédaction RMC Sport, Eric Salio, qui nous fait un petit coucou dans l'Intégral Sport. Salut Eric.
Salut Simon, salut à tous.
Eric, retour tout d'abord sur le match d'hier face à Yannick Sinner. Terence Atman, il l'avait annoncé, qu'il ne craignait pas forcément plus que ça Sinner. Il avait dit il a deux bras et deux jambes comme tout le monde. Il l'a montré, il a fait mieux que tenir tête au numéro 1 mondial hier.
Ouais, c'était un premier set étonnant de sa part parce qu'il a vraiment gêné l'Italien, notamment avec son service de gaucher. Donc il a tenu ses mises en jeu, mais sans le moindre problème. Et puis on se dit, à 6 partout, il peut se passer un truc sympa. Et malheureusement, il a mal débuté ce
à la
ce
double pour débuter.
Ouais, voilà, une double faute qui fait mal. Alors il dit que Sinner a changé sa position au retour. Peut-être que c'est vrai. Et c'est là qu'on voit peut-être l'expérience du numéro mondial. Et derrière, il s'est trouvé à 0-3. Et puis bon, le tie-break lui a filé entre les doigts. Je pense qu'il a pris un petit coup au moral. Et puis il s'est rendu compte quand même que Sinner, c'était extrêmement solide. C'est très dur d'attaquer la balle de Yannick Sinner parce qu'elle va très vite, alors que sur d'autres joueurs, il a plus le temps de sortir la mitraillette, parce que moi je le compare un peu à Henri Lecomte, et malheureusement donc il a cédé 7-6, 6-2. Mais bon, on a vu aussi un garçon qui est nature, qui a créé la surprise dans le couloir en offrant le cadeau d'anniversaire à Yannick Sinner, en l'occurrence une carte Pokémon. C'est une scène assez incroyable qui résume bien le personnage, un peu foufou, mais en tout cas on est content qu'il ait réussi ce parcours, parce que on savait qu'il avait un immense potentiel. Maintenant c'est fait, il va s'installer donc dans le dans le circuit, il va pouvoir jouer tous les grands tournois et on a hâte que ça confirme un peu comme Loïs Boisson, quoi.
Oui, évidemment, on fait évidemment le parallèle et on va se projeter grâce à toi sur les objectifs que Terence Atman peut se fixer pour la suite. Avant ça, toujours sur la demi-finale d'hier, il a joué contre le vrai Sinner, le vrai numéro 1 mondial. C'était du bon Sinner face à lui.
C'était du Sinner solide qui avait bien étudié son adversaire, qui a fait la différence dans les moments cruciaux, parce que dans les tie-break, Sinner, il a des stats incroyables, sauf contre Alcaraz, comme par hasard.
C'est pour ça
qu'il est numéro mondial. C'est un mec qui est ultra rigoureux et donc qui avait ses petites fiches sur Atman. Mais il a été surpris quand même par la vitesse de balle du nordiste. Mais bon, c'était condition de jeu difficile, hein, en plein cagnard. Il était 15h, donc c'était dur de sortir du grand tennis. Il a fait ce qu'il fallait, quoi. Et c'est ce qu'il a fait depuis le début de la semaine, parce qu'on sait qu'il revient de vacances après son exploit à Wimbledon.
Il a fait le boulot, le numéro 1 mondial, et interrogé évidemment suite à sa victoire par les journalistes. Alors, ce Terence Atman, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'est un joueur incroyable, il l'a montré aujourd'hui, mais aussi tout au long du tournoi. Il a vraiment un potentiel énorme et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Il était prêt à se battre et il l'a fait. On va probablement le revoir beaucoup à l'avenir. En tout cas, c'est mon sentiment.
Justement, ton sentiment, toi, Eric, qui suit le circuit toute l'année, c'est une déclaration convenue de Sinner ou c'est un vrai hommage? Il est vraiment hypé par nos joueurs français.
Bon, Sinner est toujours très poli dans les conférences de presse. Oui. Hein, tu ne l'entendras jamais dire du mal d'un confrère. Mais non, je pense qu'il est sincère parce que, on l'a dit, le premier set, il a été pas chahuté, mais il avait du mal à trouver ses marques face à un garçon qui jouait vite, qui servait remarquablement, qui a... Puis c'est jamais facile de jouer un gaucher parce que voilà, les repères sont jamais les mêmes. Et sur le circuit, il y en a pas tant que ça. Donc il a mis du temps. Mais une fois qu'il a pris le large, il a contrôlé la situation. Bon, maintenant, c'est intéressant la période qui va suivre parce que il a très peu de temps pour se rebooster, pour se reconcentrer sur l'US Open, puisque normalement il va donc jouer les qualifs. Le tableau va être tiré ce soir. Il sera tête de série 25. Donc ça veut dire qu'il aura un premier tour. Il va jouer un mec qui sera au-delà de la 150e place mondiale. Mais, mon cher Simon, il va avoir une énorme pancarte dans le dos.
Oui.
Tout le monde va voir se faire Terence Atman. Ouais. Et que ce soit à Flushing Meadows ou à Cincinnati, il va voir ce que c'est d'avoir créé un exploit sur le circuit. Et j'espère qu'il va récupérer. Et j'espère que le juge arbitre aussi, ça sera sympa. Parce que je crois qu'il est possible qu'il débute seulement mardi. Donc ce serait un vrai plus que Terence et un petit jour de plus de récupération. Parce que les conditions de jeu seront peut-être pas les mêmes non plus. Je crois que Cincinnati c'était très rapide, New York c'est peut-être un peu moins rapide, donc il va falloir s'habituer. Mais on a hâte de voir comment il va enchaîner. Un peu comme on avait hâte de voir comment Loïs Boisson allait enchaîner avec les qualifs de Wimbledon, et on se souvient que ça s'était mal passé.
Oui, même si la surface, le changement de surface était quand même un petit peu plus brutal entre la terre battue et le gazon que sur le sillon américain. Mais c'est vrai, tu fais bien de rappeler que aux États-Unis, en cette saison, il fait très très chaud et parfois très humide. Les organismes sont soumis à rude épreuve. Avant de revenir avec toi sur la personnalité quand même un petit peu atypique de ce Terence Atman, est-ce que ce parcours à Cincinnati, là je parle seulement du côté tennis, du talent de ce jeune homme. Alors le grand public ne s'y attendait pas, et c'est une évidence. Est-ce que les insiders du circuit comme toi et certains confrères étrangers l'avaient senti un petit peu venir? Est-ce qu'on savait qu'il y avait un tel potentiel chez ce Français?
Mais bien sûr, on le savait. Il avait vraiment approché le top 100 il y a quelques mois, et puis il avait un peu bloqué. Son seul défaut à Terence, c'est qu'il s'est jamais exprimé à Roland-Garros. Et au contraire, il a vécu que des calvaires, puisque c'est ce que je disais dans les grandes gueules hier matin. Il y a deux ans, il perdait au premier tour des qualifs. L'an passé, il avait perdu un match en 5-7 après avoir mené 2-7-0. Et surtout, il avait frôlé la disqualification, puisqu'on va y revenir. C'est un garçon qui a du tempérament et qui parfois pète un peu les plombs. Et avec le recul, il aurait dû être disqualifié. J'ai l'impression qu'il avait été un peu protégé par la Fédération française. Et puis, il y a 2-3 mois, il avait très mal joué sur le central face à Richard Gasquet, avec des balles dans les bâches, avec des crampes de stress, et puis cette poignée de main qui avait fait jaser, parce que elle était tellement fraîche qu'on se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a quand même Gasquet en face de lui, c'était son dernier tournoi à Richard Gasquet, et c'est comme s'il serrait la main d'un anonyme. Donc, il avait pris cher. Et d'ailleurs, il avait été convoqué par les dirigeants de la Fédé, avec Gilles Moreton en tête, pour lui dire, écoute, ça, c'est pas bien ce que t'as fait, mais on croit en toi. On croit en toi. On sait que t'as un bras formidable, mais il faut juste que tu fasses les choses bien. Et puis, il a retrouvé Guillaume Père, qui est un coach qu'il avait rencontré il y a un an en Chine. Guillaume Père, qui travaillait pour une académie à Pékin, et qui a décidé de donner son préavis, de quitter l'académie à Pékin pour se consacrer à 100% à Terence Hatman, parce qu'il a l'impression d'avoir un diamant entre les doigts. Et Guillaume Père, c'est pas un rigolo. Il était avec Marcos Baghdatis quand le Chypriote avait fait finale à l'Open d'Australie 2006. Et il a vu que Terence Hatman avait un bras formidable, mais il fallait bosser à côté. Et peut-être que Terence s'était un petit peu relâché, d'où des résultats un peu moyens ces dernières semaines.
Éric Salio, notre spécialiste tennis, est avec nous dans l'Intégral Sport. On revient sur la fantastique semaine de Terence Hatman, le Français de 23 ans qui a atteint pour la première fois de sa carrière les demi-finales d'un Masters 1000, battu hier par Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, 7-6-6-2. Il a bien fait mieux que tenir tête au numéro 1 mondial. Éric, tu le disais, son coach, il a connu Baghdatis, il connaît un petit peu les profils atypiques, les joueurs caractériels, on le dit avec beaucoup d'affection. Ce caractère qui, tu commençais à le souligner, a parfois pu jouer des tours dans son début de carrière. Et pourtant, on sait que le grand public adore quand même ses profils et a plus de facilité souvent à s'attacher à ce genre de profil.
Oui, mais il faut atteindre la maturité, Simon. Voilà, il a 23 ans. Je pense aussi qu'il avait de grosses attentes en lui, si je puis m'exprimer ainsi, parce que il se savait fort, il a une grosse confiance en lui, mais c'est vrai qu'il bloquait sur la barre du top 100, donc il lui fallait un tour à déclic. Il l'a connu à Cincy, dans un Masters 1000. D'ailleurs, au passage, je ne suis pas fan de la formule, je ne suis pas le seul, je crois, mais si on a vu l'ancienne formule, Terence Hatman n'aurait jamais pu vivre ce qu'il a vécu dans l'Ohio, puisque avec l'ancienne formule, il n'aurait même pas pu faire les qualifs. Donc là, avec ce format élargi, il a pu accéder aux qualifs, il a passé ses deux tours, puis derrière, on a vu ce qu'il a fait, il a battu deux top 10. Donc maintenant, je crois qu'il a compris beaucoup de choses. Il est rassuré aussi sur le plan financier, parce que bon, il prend, je crois, un chèque de 330 000 dollars. Ça lui permet de respirer, ça permet aussi à ses parents de respirer, parce que ses parents avaient beaucoup investi sur lui. Donc là, il y a un énorme soulagement, mais c'est pas le genre de mec qui va se reposer sur ses lauriers. Il va investir. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un kiné à plein temps sur le circuit. Tout le monde en a. Donc, s'il veut vraiment tutoyer les sommets, il va falloir qu'il renforce son staff. Et le prize money qu'il a touché à Cincy va évidemment servir à cela. En sachant qu'après l'US Open, il va se faire la tournée asiatique, puisqu'il adore l'Asie. Il adore Shanghai, Pékin. Donc, il adore les Pokémon. Il va pouvoir acheter de nouvelles cartes rares, je pense. Mais c'est un garçon, oui, qui adore l'Asie. Il n'est pas fait comme les autres Français. Les autres Français préfèrent rester en Europe. Lui, il adore voyager et découvrir d'autres cultures.
Et on sait qu'il l'a beaucoup fait durant sa préadolescence et son adolescence pour parfaire sa formation. Pour ceux que ça fait sourire, les cartes Pokémon font l'objet d'un grand marché de collectionneurs et il y a des cotes immenses. Il est, de son propre aveu, l'un des plus grands collectionneur de, il a une des plus belles collections de cartes Pokémon en France. Il a donc fait ce qui pour lui est un immense cadeau à Yannick Sinner, le numéro 1 mondial.
Et tu crois qu'il lui a filé une carte rare?
On aimerait savoir, justement. j'ai perdu quelques, j'étais meilleur en Pokémon il y a quelques années. Barbibule, je me souviens. Voilà, mais voilà, Pikachu et Barbibule. Mais on espère que Yannick Sinner nous révélera quelle carte il a reçue en cadeau. Avant de te libérer, Eric.
C'est Pikachu, apparemment.
C'est Pikachu, apparemment. Ah bah, j'imagine que Pikachu.
C'est une belle carte.
Ah bah c'est une vraie carte, mais je pense qu'il doit y avoir des milliers de cartes Pikachu. Ouais, donc voilà, reste à savoir là. Laquelle, mais il a pas dû. S'il a voulu faire plaisir à Sinner, il a dû lui offrir une belle carte. Qui sait, peut-être qu'il l'avait en double.
Non, mais c'était sincère. La scène était géniale, hein, juste avant d'entrer sur le court. même Sinner a été surpris, ils ont fait la collade. Voilà, il a trouvé un bel ami, mais c'est bien de se faire des amis ça. Comme Yannick Sinner, numéro 1 mondial, c'est bien.
Oui, ça peut aider sur le
ça circuit. Peut
tu disais, prochain objectif, c'est entrer dans le tableau final de l'US Open. Bon, sur quoi, quand il aura un petit peu de temps pour mettre un petit peu tout ça à plat, sur quoi il doit progresser dans son jeu? Quels sont les secteurs de jeu dans lesquels il peut encore faire s'améliorer?
Il a deux points forts, c'est le service et le coup droit. Donc, tu vois, je vais en venir. Faut qu'il progresse du côté revers, parce que si Sinner s'est imposé facilement dans le deuxième, c'est parce qu'il a aussi insisté sur le côté revers de Terence Atman, qui a moins de confiance. Tu le verras moins lâcher des revers gagnants que des coups droits gagnants, ça c'est clair. Mais je pense que le chantier va prendre un peu de temps, mais Guillaume Père, qui a aussi travaillé avec Richard Gasquet quand il y a quelques années. Donc non, Guillaume Père, c'est un pro, c'est une sorte d'éducateur, et je pense que le chantier l'excite au plus haut point. Donc on peut être sûr que ça va progresser dans ce domaine. De toute façon, il le faut, parce que sinon les mecs ils vont tout de suite repérer la faille. Peut-être que Fritz avait mal travaillé avec son coach et qu'ils se sont rendus compte qu'il aurait fallu plus inciter côté revers. Mais voilà, donc non, il y a des axes de travail qui sont très sympas. Et je pense que, comme l'a dit Ivan Ljubicic, et c'était même à Roland-Garros, donc c'était après la crise du match contre Richard Gasquet, Ljubicic, il est fan absolu de Terence Atman. Et Richard Gasquet avait dit à Ivan Ljubicic qu'il n'avait jamais vu une balle aussi lourde que celle de Rafa Nadal.
Ah bon.
Et je pense que s'il parlait de la rotation de balle, il n'y a pas un mec qui fait autant tourner la balle que Terence Atman. Donc ça, c'est prometteur. Et ça veut dire qu'en face, il faut vraiment s'accrocher pour contrôler les obus du nordiste.
Et c'est peut-être la meilleure nouvelle qui pouvait arriver à un tennis français en manque de tête d'affiche. Merci beaucoup, Eric. On suivra la suite des performances de Terence Atman, notamment du côté de l'US Open, où on espère qu'il franchira les qualifs. On te retrouve rapidement sur l'antenne de RMC. Merci beaucoup d'être passé par l'Intégral Sport. L'Intégral Sport qui revient dans quelques instants, se quitte quelques secondes à peine. Non, peut-être qu'on a le temps d'aller voir Eddy Artigau qui va commenter pour nous le live de cette tranche de l'Intégral Sport. Salut Eddy.
Salut Simon, bonjour à toutes et à tous.
Grand Prix d'Autriche, 13e manche de la saison de MotoGP à suivre dans quelques minutes sur RMC. Ce n'est pas Marc Marquez qui part en pole position.
Non, effectivement, pour la première fois de la saison, c'est Marco Bezzecchi sur son Aprilia qui s'élancera en tête devant Alex Marquez et Pecco Bagnaia. Marc Marquez sera quatrième. Simon, ce Grand Prix d'Autriche qui marque le grand retour du MotoGP après 4 semaines de trêve. Et évidemment, hier en sprint, on en reparlera, c'est Marc Marquez qui s'était élancé quatrième, qui a remporté le sprint. Le 12e sprint sur 13 courses sprint depuis le début de la saison. Il est en tête du champion du monde. Il devrait être champion du monde à la fin de la saison. Mais on va s'intéresser à cette course puisque, comme je le précisais il y a quelques instants, c'est donc Bezzecchi qui s'élancera en tête. Nos Français seront bien plus loin. 12e position pour Juan Zarco et 16e position pour Fabio Quartararo sur sa Yamaha.
Bon, Bezzecchi, c'est l'un des seuls autres vainqueurs de Grand Prix de la saison tout de même.
Oui, on n'oublie pas non plus Alex Marquez
et Juan Zarco
remporté, et Juan Zarco évidemment lors du Grand Prix de France. D'ailleurs, une petite parenthèse, mon cher Simon, le calendrier 2026 est tombé pour le MotoGP. Il y aura au total 22 Grands Prix sur 5 continents et une grande première, le Grand Prix du Brésil va faire son apparition. Ce sera le 22 mars. Il remplacera le Grand Prix d'Argentine et puis évidemment pour tous les fans de moto, le Grand Prix de France. Ce sera le 10 mai prochain sur le circuit Bugatti. Voilà pour cette parenthèse refermée. Mais c'est vrai que sur ce Grand Prix d'Autriche, Bezzecchi est capable d'aller titiller Marc Marquez. Pourquoi pas jouer la victoire? En tout cas, l'Aprilia a donné de bons signes à Marco Bezzecchi, également à Jorge Martin, son coéquipier, le champion du monde, qui revient d'une large blessure, d'une grande blessure. Il tente un top 10, il l'a dit en conférence de presse après les qualifications. On va donc suivre ce match dans le match entre les Aprilia et les Ducati sur ce Red Bull Ring. Je vous rappelle que ce circuit est niché dans les Alpes autrichiennes. Magnifique tracé avec de longues lignes droites, de gros freinages. On s'attend donc à une grosse bagarre dans quelques petits instants.
Et du spectacle avec toi à suivre sur RMC, ce Grand Prix d'Autriche de MotoGP. On te retrouve dans quelques instants dans l'Intégral Sport qui s'interrompt quelques secondes à peine. Le live MotoGP et la coup de projecteur sur la suite et la fin de la première journée de Ligue 1. Vous ne bougez pas, on est de retour dans quelques secondes.